L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Mariam, mère de Jacob, une des femmes citées dans les évangiles, invite le lecteur à une redécouverte inattendue de Jésus de Nazareth. Femme érudite, faisant partie du cercle des intimes, elle est devenue le scribe de la communauté des disciples et a transmis à son fils Jacob, le frère du Seigneur, la première version en hébreu des paroles et actes de son maître. Exilée sur les rivages de la Gaule, elle écrit ses mémoires à l'intention de sa petite-fille, Ora, la lumière en hébreu. La fiction permet de faire la lumière sur certains nombres de mystères que les évangiles continuent à poser à tous les chercheurs de sens. Elle dessine autour de la personne du Messie, fils de Dieu, des contours plus nets, en le replaçant dans le temps et le monde où il a vécu. Basée sur les recherches les plus récentes en exégèse et en littérature biblique, le récit apporte des hypothèses inédites et permet à tout lecteur, même celui qui n'est pas familier avec la Bible, de se plonger dans l'univers des hommes et des femmes du premier siècle. Il l'invite en même temps à lire et à relire les évangiles et, qui sait, à accepter de se mettre à son tour sur les pas de Jésus le Christ. Je viens de vous lire la quatrième de couverture d'un livre qui traite l'évangile comme un roman. Son autrice est avec nous sur Radio FM+, dans Aéropage pour en parler. Bonjour Joëlle Rendégère.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir dans les nouveaux studios du Carousel.
Je suis émerveillée.
Ah, c'est joli, hein. Vous connaissiez le 665? Vous
étiez venue dans les studios. Oui, bien sûr.
On va parler un petit peu de vous, Joëlle. Vous êtes née dans les années 40 en Tunisie. Vous êtes mère de 4 enfants, grand-mère alors sur 6 ou 7?
Je pourrais dire 7, mais il y en a un qui est décédé.
Donc 6, 7, il y en a 7 qui sont nés. Et vous êtes médecin, pédiatre. Vous avez exercé, spécialisé dans le sida?
Oui, j'ai eu la responsabilité au CHU de Montpellier d'une cohorte d'enfants concernés par le VIH pendant une dizaine d'années, 15 ans peut-être, oui. Et j'ai eu la joie de participer aux recherches qui ont conduit à la découverte de traitements efficaces.
Et maintenant, vous vivez à Montpellier.
Et maintenant, je vis à Montpellier, retraitée.
De la Tunisie à Montpellier, vous vous sentez cette femme des deux rives?
Ah ben, tout à fait. Je suis tout à fait méditerranéenne. Et c'est pour ça que j'ai pu camper de façon assez facile l'univers méditerranéen de la Palestine de l'époque. Je pense que beaucoup de coutumes, beaucoup de cette culture n'a pas disparu. J'en ai fait l'expérience aussi bien dans le Maghreb que dans les pays de la Méditerranée, au nord de la Méditerranée.
C'est vrai que la Tunisie, la séparation avec la Tunisie a été moins douloureuse de mémoire que celle avec l'Algérie. Mais vous êtes partie de la Tunisie à quel âge?
J'avais 14 ans.
Oui. Donc vous en avez des souvenirs très forts.
Ah ben j'ai des souvenirs très forts, oui, bien sûr. Toute mon enfance, et c'était une enfance plutôt heureuse, avec des parents protestants qui mettaient en pratique leur foi. Ils étaient enseignants, ils développaient la Tunisie, ils avaient des amis dans toutes les classes sociales, voilà. Et donc c'était vraiment une ouverture pour moi, cette enfance.
On en parle moins, hein, de l'indépendance de la Tunisie. C'était la situation politique était différente qu'avec l'Algérie, je crois.
Oui, mais il y a eu quand même une révolte assez violente, hein, de la part, en particulier du parti néo-destour, dont Bourguiba était le chef. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Nous, on a connu les bombes qui éclataient pas loin de chez nous, la peur. Mais ça s'est fait plus vite, l'indépendance s'est fait plus vite.
C'est quelque chose qui est encore ancré. Vous y retournez, par exemple? Vous y êtes tourné en Tunisie?
Oui, j'y suis retournée. Je suis retournée à Carthage, justement, puisque la première page de le premier chapitre de mon livre se passe à Carthage. J'ai pu revoir les lieux avec beaucoup d'émotions et aussi on a été accueillis par des Tunisiens extraordinaires avec une chaleur et une bienveillance à laquelle je m'attendais pas forcément, mais qui montre que il y avait une réelle amitié entre ces deux peuples, malgré tout ce que l'on dit sur la colonisation.
Vous êtes pédiatre, vous avez choisi la pédiatrie par volonté, c'était vraiment quelque chose que vous vouliez faire ?
Alors j'ai écrit un livre là-dessus, je suis devenue pédiatre et pourquoi j'ai choisi dans la pédiatrie un chemin très difficile qui m'a conduit très souvent auprès d'enfants mourants et de mères et de parents éplorés. Ce livre s'appelle Pavane, mais c'est un livre tellement intime que j'en parle pas forcément.
Vous l'avez écrit, publié ou juste...
Oui, il est publié chez BOD, c'est-à-dire une maison d'édition,
oui, BOD,
voilà, qui est donc pas officielle, mais qui permet de publier ce qu'on a envie de publier sans problème. Il n'y a pas de comité de lecture pour ça, voilà.
Et vous exercez en Afrique, 20 ans ?
Alors oui, nous sommes partis, mon mari et moi, en Algérie, presque 4 ans après notre mariage, et nous avons fait tout le début de notre carrière dans plusieurs pays d'Afrique, en Algérie d'abord, où j'ai retrouvé mes racines maghrébines, méditerranéennes, et puis ensuite en Afrique noire, en Côte d'Ivoire et au Congo. Et puis ensuite, j'ai fait aussi beaucoup de missions humanitaires dans d'autres pays, Madagascar, Burkina, etc.
Justement, ça doit... Enfin, il doit y avoir des choses difficiles à vivre parce que bon, tout ce qui est autour de la pédiatrie, il n'y a pas beaucoup de moyens. Il y a pas, et puis il y a toute l'histoire de l'Afrique aussi. Hein,
oui, et puis il n'y a pas
de la maternité, de l'excision. Enfin, bon, je dirais qu'il y a
tout ça. Tout ça. Et effectivement. Et ça ressort un petit peu dans mon livre parce que mon héroïne évolue dans un milieu médical de thérapeute. Jésus a été le plus grand médecin qui soit. Donc oui, je projette tout ce vécu dans quelques passages de mon livre et j'en parle avec mon cœur. Pas forcément avec mon intelligence.
D'ailleurs, cet engagement, il sous-tend toute votre vie.
Tout à fait,
Oui, oui. On ne se connaît pas beaucoup encore, mais bon, le peu que je comprends et que je pressens, c'est ça, c'est toujours un engagement. Et quand vous êtes fils de protestante, vous êtes engagée dans l'Église aussi, vous vous engagez aussi.
Oui, alors ça a été très très naturel chez moi, étant donné que mon milieu familial a été, très très porteur. J'ai pas vu les côtés culpabilisants, désastreux que peut donner quelquefois une Église trop puissante, intrusive. Mm-hmm. Non, pas du tout. C'était vécu avec le scoutisme aussi, dans quelque chose de presque ludique et joyeux, avec beaucoup d'incitation à s'engager auprès des autres. Je voyais mes parents le faire, donc ça n'a pas été très douloureux pour moi.
Et mener cet engagement jusqu'à suivre un cursus théologique pour justement... C'était pour... D'abord, peut-être tout simplement par plaisir intellectuel, hein, ça peut aussi s'entendre.
Oui.
Hein. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus d'avoir ce chemin-là, justement ?
Alors, mon engagement dans l'Église, ça a été toujours pour enseigner d'abord aux enfants, dans l'école du dimanche, ensuite dans des groupes de catéchèse, ensuite aux moniteurs d'école du dimanche, etc. J'étais obligée de faire de la théologie, d'interpréter, de connaître les interprétations contemporaines. Bon. Donc là, dans la première partie de ma vie, j'étais en Afrique, je l'ai fait de façon livresque. Et puis, en arrivant à Montpellier, je me suis engagée dans l'aumônerie hospitalière protestante. Et là, c'était absolument indispensable d'avoir des bases de théologie, ne serait-ce que pour comprendre le mal, la souffrance, la mort, enfin toutes ces notions qui étaient de plus en plus prégnantes dans mon exercice. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir aussi des notions d'éthique. Donc là, je me suis mise à l'école de Jean-Daniel Causse, qui était professeur d'éthique à l'époque. Et puis, j'ai fait un master d'exégèse et théologie avec Jean-Daniel Causse et Élian Cuvillier. J'ai fait un peu de théologie pratique aussi. Donc, je n'ai pas fait tout le cursus. Hein. J'ai pas mon diplôme de théologienne. Mais... je crois que toutes les lectures que j'ai faites depuis 50 ans font que voilà, je suis une étudiante perpétuelle.
C'est des choses que vous avez reproduites dans l'écriture, parce que justement tous vos textes sont consacrés à des questions éthiques. Ce que vous avez édité.
Bien sûr.
Mais je vous comprends, parce que alors moi, je n'ai pas tout le même cheminement que vous. Moi, je suis complètement agnostique, en plus d'une famille plutôt anti, qui bouffait plutôt du curé que... Voilà. Il n'empêche que j'ai toujours eu quand même une part de spiritualité, mais les premiers échanges qu'on a eus au téléphone, ça m'ont passionnée, et je comprends très bien. Et j'aurais envie, moi aussi, d'avoir cette connaissance. Je vous disais avec amusement qu'en ce moment, je me passionnais pour les mythes... grec, Jésus et Ouranos et Chronos qui couple avec le coup de son père et la naissance d'Aphrodite, tout ça, je trouve ça formidable. Et je me dis, j'aimerais appréhender la Bible comme ça, comme une histoire mythologique. Et je ne sais pas quoi lire, je ne sais pas comment l'aborder. Un peu là, c'est vrai.
Pour moi, ce n'est pas une histoire mythologique.
Oui, bien sûr.
Il y a des mythes, oui, mais c'est une histoire qui nous parle,
oui.
Dans laquelle on est impliqué personnellement. Quand on ouvre sa Bible, on ne peut pas faire autrement que d'être impliqué par ce qui nous est apporté.
Et quand je vous ai dit, je me sens presque pas le syndrome de l'imposteur, parce qu'en ce moment, c'est à la mode, on le met à toutes les sauces, ce syndrome de l'imposteur. Et vous m'avez dit, mais non, au contraire, Nathalie, ce livre s'adresse aussi à des gens comme vous qui ne connaissez pas cette histoire-là. C'était important pour vous d'ouvrir justement à des gens qui ne connaissaient pas cette histoire-là.
Tout à fait. Alors, l'idée de ce livre m'est venue il y a très très longtemps avec mon parcours avec les femmes et l'iconographie, ça oui, mais surtout à une fête de Noël en famille avec des jeunes qui étaient d'origine malgache. Il y en a un qui tout d'un coup m'a dit, mais Joël, est-ce que tu connaîtrais pas un livre sur Jésus que je pourrais lire, moi qui connais pas grand-chose? Voilà. Et j'avoue que je suis restée un petit peu sans lui répondre réellement, parce que oui, il y a des très beaux livres sur Jésus, mais ils sont compliqués. C'est des théologiens qui les écrivent. Et rentrer dedans quand on n'est pas du sérail, c'est pas facile. Donc je me suis dit, je vais peut-être l'écrire, ce roman que j'ai dans la tête depuis longtemps. Et ça pourra servir.
Et ben voilà. En tout cas, moi, ça me sert. je voulais, puisque vous l'avez évoqué, parler aussi d'une de vos passions, c'est justement l'iconographie. La couverture est de vous, Joël ?
Oui, tout à fait.
On trouve sur Internet un petit film, d'ailleurs, où vous expliquez votre travail sur l'iconographie. Elle est venue comment, cette passion pour les icônes ?
Alors, la passion du dessin et de la couleur m'a été transmise par ma grand-mère, qui était directrice d'école maternelle et qui m'a fait dessiner pendant toute mon enfance, en me donnant toutes sortes de modèles, d'images, de belles images, à la fois des images chrétiennes, mais aussi des images de tout ça. Et ça m'a tout de suite beaucoup plu. J'étais, je crois, bonne en dessin. Puis ensuite, la médecine, le mariage, les enfants, etc. J'avais pas eu beaucoup d'occasion de me perfectionner et arrivé à la retraite, je me suis dit, je veux faire quelque chose de créatif, je veux utiliser ce don qui m'a été donné mais je ne veux pas faire simplement des aquarelles, des peintures comme ça pour me distraire, c'est pas ça. Je veux que ça serve à témoigner aussi de ma foi. Et donc, j'ai essayé de voir dans l'art religieux ce qui me plaisait le plus. Et effectivement, c'était l'art primitif des icônes qui a un langage symbolique formidable, qui est comme la Bible, toujours à redécouvrir, toujours à ressentir aussi. Et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mise. Et je m'y suis mise... En 2003, j'ai pris des leçons auprès d'une maître iconographe. Je ne sais pas si on dit maîtresse ou maître, enfin, en tout cas...
Une enseignante qui
m'a enseigné vraiment toute la beauté, la technique de ces... Et qui était très coloriste,
les couleurs sont magnifiques. C'est vrai qu'on parle, quand on parle des icônes, on parle... Enfin, moi, j'étais à Nicosie, à Chypre, et il y a un très beau musée des icônes là-bas. C'est quelque chose qu'on ne pense pas qui est continué aujourd'hui. Moi, je ne savais pas. Voilà,
alors, il y a un renouveau. Il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers aujourd'hui, d'ateliers contemporains. Mais c'est dans celui d'Anya Pinkovic que j'ai trouvé ma joie et mon
plaisir. Vous l'exprimez d'ailleurs, si des auditeurs sont intéressés. Il y a tout un article où vous en parlez très bien. On va marquer notre première pause musicale. Et vous avez choisi pour nous, alors moi, je ne sais pas bien dire, un morceau de Handel, c'est Lacha Kyo Pianga.
Oui, c'est ça.
Il
y a un très beau cantique sur cette air-là. Seigneur, dirige et sanctifie. Et ça, c'est le...
Et chanté par Jarouski. Je ne sais pas si Yann, qui nous accompagne aujourd'hui à la technique, bonjour Yann, a trouvé la version avec Jarouski ou pas. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui... Il est venu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Montpellier, oui. Jarouski, pour en parler. On se retrouve tout de suite après la page musicale. À tout de suite, Joël. C'est un beau cadeau que nous a fait notre invité du jour, Joël Rendégère, en nous proposant ce merveilleux morceau. Et vous êtes toujours sur Radio FM Plus dans Aéropage. Rebonjour Joël. Après cette pause musicale, on va parler du Jardin des Oliviers. Le Jardin des Oliviers, vous le présentez, enfin sur Internet, il y a une présentation comme un roman biblico-historique qui nous entraîne sur les pas de Jésus, mais pas que, surtout sur les pas des femmes entourant Jésus depuis sa naissance et même avant. À 60 ans, c'est la première fois que j'entends parler d'un roman biblico-historique, alors j'ai un peu chopé dessus. Oui, c'est un roman autour de l'histoire de la Bible. Il y en a d'autres, des romans comme ça? C'est une école?
Non, je ne peux pas dire que c'est une école, mais il y a d'autres romans qui ont eu la même démarche. Je citerai par exemple Mika Valkari avec son Jésus de Nazareth, mais aussi Le Royaume. Et puis Frank Slaughter aussi avec Les Routes de Bithynie, par exemple, qui met en scène Paul et Luc. Il y en a certainement d'autres, je ne les ai pas tous lus. Mais biblico-historique, pour moi, ça s'appuie bien sûr sur la Bible, sur les les textes de l'Évangile et de la Bible, puisqu'il y a beaucoup de citations des psaumes et des prophètes aussi, parce que c'est un milieu de femmes juives, et donc elles sont dans cette culture des textes de l'Ancien Testament pour nous, et de leur Bible, la Bible juive. Mais je m'appuie aussi sur tous les livres d'histoire qui ont été écrits autour et à cette époque, Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, les différents apocryphes, les historiens de l'Église. Il y a la Bible, mais il y a aussi les livres d'histoire. Et chez les protestants, on n'a pas trop l'habitude de s'appuyer sur les apocryphes, parce que c'est considéré comme justement apocryphe, donc non biblique, mais et c'est vrai qu'ils sont très souvent légendaires ou écrits beaucoup trop tard pour qu'on puisse en faire la parole de Dieu, mais il y a pas mal de notions historiques que j'ai pu reprendre et qui m'ont beaucoup intéressé de les relier avec ce qui est dit dans l'Évangile lui-même.
C'est amusant que vous citiez Mika Waltari, parce qu'on a un partenariat à la radio dans Aéropage avec la maison Le Jardin des Livres qui réédite en ce moment tous les Mika Waltari, et là je viens juste avant vous de proposer Rome qui est la suite de l'écolier de Dieu, oui. Justement. Voilà.
Donc, oui, oui. Moi, je les ai tous lus. Donc.
Voilà. Et tous les mois, ce jardin des livres, cette maison d'édition, nous donne 4 livres à offrir à nos auditeurs. Voilà.
Alors, je ne veux pas me mesurer à un écrivain de cette ampleur.
Mais il y a des gens qui le remettent aussi en question un peu. Voilà. Donc, on va tourner les pages du livre ensemble. Et c'est avec Mariam, donc mère de Jacob, que nous cheminons dans ce livre. Qui est Mariam ?
Alors, Mariam, c'est Marie, mère de Jacques, dans l'Évangile, qui est une femme complètement silencieuse. Mais elle arrive dans les pages, comme ça, on voit sa figure, très discrète, et hop, elle disparaît. Et pour moi, c'est une observatrice. Elle est là pour témoigner de tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, sans vouloir se mettre en avant. Et c'est ce qu'elle va faire dans ce livre. Bien sûr, on va découvrir qui elle est, mais tous les personnages qu'elle va mettre en scène, c'est comme les arbres du jardin des oliviers qui vont pousser là tout autour, comme dans une forêt un peu touffue d'ailleurs. Il est pas facile de s'y retrouver parfois, mais qui vont dessiner en creux la clairière où se trouve la lumière du Christ. Voilà. Et Mariam est la, je crois que c'est elle qui sème tous ces arbres, toutes ces plantes, toutes ces. D'ailleurs, elle est herboriste. Elle connaît l'art de la pharmacologie. Et à l'époque, c'était essentiellement par les plantes. J'ai voulu la faire parler pour une fois. Puisqu'elle était tellement muette dans l'Évangile.
Mais vous dites par contre que c'est une femme érudite. C'était des exceptions, les femmes érudites à l'époque ou
Alors, je pense que j'ai lu...
Femme érudite, excusez-moi, je continue juste, mais... Et voulue érudite par ses parents.
Oui, c'est ça. Voulue érudite par ses parents. Je pense que ça ne devait pas être complètement exceptionnel dans le milieu dans lequel je la fais évoluer au départ, c'est-à-dire le milieu aristocratique de Jérusalem. C'était quand même des personnes qui... Les hommes étaient forcément très érudits, les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les écoles fréquentées par les hommes, mais dans les familles, il y avait une tradition. Et je me suis appuyée d'abord sur les images que l'on voit de Sainte Anne, c'est-à-dire Anne, la mère légendaire de Marie, où on la voit toujours avec un livre qui enseigne sa fille. Donc on voit que c'était pas une aberration d'avoir des femmes qui savaient lire et écrire. Et j'ai lu quelque part, je ne peux pas vous dire la référence, qu'au 1er siècle, mais seulement au 1er siècle, il y a eu plusieurs femmes érudites qui ont écrit et qui ont partagé, on le voit par exemple, avec Paul, hein, avec les églises de maison, c'était des femmes qui ouvraient leur maison à Paul pour en faire des églises. Et ces femmes, elles savaient lire, elles savaient écrire, sinon elles n'auraient pas accueilli quelqu'un comme Paul, qui était quand même pas si facile que ça à comprendre.
Et l'importance des femmes dans la Bible, vous pensez qu'elle s'est érodée dans la religiosité après ?
Ah oui, tout à fait. Mmh. D'abord, je ne peux pas dire que dans l'Ancien Testament, il y ait une tradition très féministe. Mmh. Mais il y a quand même des très grandes figures de matriarches qui ont un grand rôle dans l'histoire et que la Bible n'élude pas, comme l'ont fait beaucoup d'historiens ensuite, en éludant complètement le rôle des femmes. Non, elles apparaissent et elles ont un grand rôle. Dans l'Évangile, on a Jésus qui est un maître spirituel carrément féministe, comme jamais aucun autre maître spirituel l'a été avant lui et je crois après lui. Et je pense que dès la fin du 1er siècle, il y a eu un étouffoir et les femmes ont été renvoyées à leur foyer, avec un voile dans les assemblées, ne devant pas parler, etc. On voit que les successeurs de Paul ont très vite repris la tradition patriarcale dont Jésus avait entre-ouvert la porte, mais qui a été vite refermée.
D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, enfin il y a 2 ans, il y a eu un débat à Pitot avec les 4 femmes. Vous savez, il y avait la théologienne Marie-Reine, il y avait l'imam. C'était Guylaine Dubois qui avait animé le débat et qui avait ouvert justement citant toutes les femmes de la Bible et que cette importance des femmes et cette voix reprise aujourd'hui dans ce dialogue, enfin dans ce quadrilogue, je ne sais pas comment on pourrait dire, de ces 4 femmes.
Un quatuor.
Voilà, un quatuor. Avec quand même, Marie-Reine était un peu à part parce qu'elle était théologienne, les autres étaient déjà, il y avait Emmanuel Sebold bien sûr, il y avait les 2 autres, je me rappelle plus de leur nom, enfin bref, la rabbin, la femme rabbin et la femme imam, elles se connaissaient déjà très bien toutes les 3, donc elles avaient une complicité, elles avaient été enfermées 15 jours dans un hôtel pour écrire le livre. Marie-Anne, c'était un peu difficile, qu'en plus il n'y a pas de femme prêtre, enfin ça compliquait le débat. Mais revenons-en à nos femmes, cette tendresse, cet intérêt que vous avez pour les femmes de la Bible, vous l'avez toujours eu ? Ça a toujours été, ou c'est justement cet enseignement théologique qui vous a encore fait plus travailler là-dessus ?
Non, c'est pas l'enseignement théologique. c'est mon parcours. C'est mon parcours. C'est mon parcours auprès des femmes du Maghreb en particulier. Je suis allée aussi une fois à Djibouti, donc dans la Corne de l'Afrique, avec des femmes très colorées aussi, avec des voiles magnifiques et des femmes superbes, mais dont la parole n'était absolument pas entendue. C'est pour ça que j'ai voulu leur donner la parole, d'une certaine façon, en montrant qu'elles avaient un amour vers le Christ qui aurait pu transformer complètement l'histoire du christianisme si on les avait écoutées.
Je le redis, le livre est un roman biblique, mais un roman. Et moi, je trouve que ça m'a aidé à aborder plein de choses, justement, par l'humanité. Je pense notamment aux parents de Mariam, par exemple, à la tendresse qu'il y a entre ces 2 personnes. Donc l'accouchement se passe mal, enfin la maternité se passe mal, donc il y a un enfant, ils décident de ne pas en avoir d'autres. Et c'est comme ça qu'à un moment, ils vont être amenés à rencontrer 2 petites filles battues au bord du chemin, dont une qu'ils vont nommer Salomé, parce qu'ils ne connaissent pas le nom de ces petites filles d'ailleurs. Esther, je crois, l'aînée,
et Salomé.
Et tout d'un coup, ça donne chair justement à ce couple. On pourrait rester que dans le biblique. Et tout d'un coup, on voit ce couple qui s'aime au quotidien, qui se respecte, qui font ce choix, puisque bon, lui amène les petites filles en disant « Mais tu sais, si tu veux pas, t'es pas obligé. » Bah oui, évidemment, quoi. Toute cette... Parce que ça, c'est du romanesque.
C'est du romanesque, mais en même temps, comme je vous l'ai dit avant, c'est aussi une histoire vécue. C'est une histoire vécue en Algérie. Et
Je précise pour les auditeurs que Joël me l'a raconté en off, en préparant l'émission.
Et cet enfant qui a été effectivement racheté à un paysan qui l'a maltraité, a été amené à la mission Roland, qui était une mission protestante de Tizi Ouzou. Et dans sa descendance, à cet enfant qui est devenu adulte, eh bien, il y a eu plusieurs générations de pasteurs. Donc, c'était une tellement belle histoire que j'ai voulu
La
oui. Et en même temps, elle éclaire sur le plan théologique une notion qui est très obscure, celle du rachat. On dit toujours que Jésus a racheté les hommes, a racheté notre péché, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et là, on voit tout simplement que c'est un acte d'amour qui rachète cet enfant pour qu'elle ne subisse plus de violence, pour que elle puisse être élevée, éduquée dans un foyer aimant et généreux. Et elle devient donc la sœur adoptive de Salomé, devient la sœur adoptive de Mariam. Et elles vont se retrouver dans leur vieillesse, dans leur grande vieillesse, pas très loin d'ici, de Montpellier, puisque c'est au Sainte-Marie de la Mer où on retrouve effectivement Marie Jacobée et Marie Salomé.
Et là, donc, elle va rédiger, Mariam, hein, aussi, alors, des rouleaux de papyrus. Et le roman s'ouvre là-dessus, sur la redécouverte dans des amphores. Alors là, on est complètement dans le romanesque, hein, mais de ces rouleaux de papyrus. Et d'avoir envie de les déchiffrer, on se dit, oh là, Joëlle Rendeiger, elle aurait eu envie de les trouver, ces amphores.
Mais c'était tellement réaliste, cette introduction, que beaucoup, beaucoup de personnes qui connaissaient la Tunisie, qui connaissaient m'ont dit, mais c'est vrai cette histoire?
On aimerait qu'elle soit vraie, Joëlle.
On aimerait tellement qu'elle soit vraie. Et j'ai presque déçu ces personnes en leur disant d'aller voir à la fin du livre les explications là-dessus et comment j'ai pu travailler sur le sujet. Bon, bien sûr, c'est les découvertes des manuscrits de la Mer Morte, c'est les découvertes aussi des manuscrits, des codex là, de Nag Hammadi dans le désert égyptien, où l'on voit que chaque jour, on peut retrouver effectivement des manuscrits très anciens qui ont été perdus et qui vont apporter un nouvel éclairage sur toute notre civilisation, en fait.
Et de ces femmes qui d'imaginer que cette femme pouvait témoigner, c'est aussi formidable. C'est le bonheur de la fiction, hein. C'est que justement, on peut se laisser plus de liberté que dans un document. Le roman, il tourne bien sûr autour de Mariam et de toutes ces femmes, mais le personnage central, c'est quand même Jésus-Christ. Et quand on a échangé courtement par téléphone, vous m'aviez dit qu'une des choses que vous vouliez faire, alors j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est justement de dépouiller le Christ de ce côté éthéré qu'on peut lui donner des siècles de religion et d'en faire quelqu'un justement de très très proche des femmes, des hommes, des gens, d'en faire quelqu'un de beaucoup plus proche, hein, on va pas chercher un autre mot, mais que de cette qu'en avaient fait les religions pendant des années, les religions chrétiennes, hein, bien sûr.
Oui, alors contrairement aux apocryphes qui existent, que l'on peut lire, j'ai éliminé beaucoup de surnaturel dans ma fiction. Au contraire, j'ai cherché ce qui était le plus cohérent, le plus probable, le plus vraisemblable. Et la personne de Jésus de Nazareth, donc, est une personne que fréquentent ces femmes. C'est leur fils adoptif, c'est leur frère, c'est leur et en même temps c'est leur maître, parce que effectivement, peu à peu, il va développer cette vie spirituelle qu'il va communiquer à tout son entourage, et il s'adresse à l'homme ou à la femme tout entière, dans son corps, dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, dans sa vie sociale. Et pour moi, c'est la caractéristique du parfait thérapeute, du parfait médecin. Donc j'ai mis en place, en fait, un Jésus médecin. Mais il n'y a qu'un seul chapitre qui est consacré réellement à Jésus. Mm-hmm. Parce que je n'ai pas voulu paraphraser l'évangile. J'ai voulu simplement donner au lecteur ou à la lectrice l'envie d'aller relire les évangiles et d'aller redécouvrir dans le texte qui est Jésus.
C'est ce que j'ai dit en lisant la quatrième de couverture, c'est bien ça, c'est d'aller chercher plus loin.
Oui, oui, oui. Et des paraphrases de l'évangile ne m'intéressaient pas vraiment. J'ai simplement rappelé certaines scènes où effectivement, par exemple, Marie de Magdala va, tout, tout, il y a tout un chapitre autour de Marie de Magdala qui représente en fait toutes les femmes victimes dans leur enfance de toutes sortes de démons, oui, et qui va être transformée par le regard que Jésus porte sur elle, un regard qui n'est pas un regard de désir, mais un regard d'amour. Et alors là, oui, je me suis appesantie sur cette histoire-là, mais à travers le filtre de Marie de Magdala, pas pour décrire vraiment. Et c'est voilà, c'est cette volonté de laisser dans un creux lumineux la figure du Christ pour qu'on aille la chercher soi-même. Mm-hmm. Là où elle est.
C'est un sujet de débat très fréquent, le Christ, le rapport du Christ avec les femmes. Oui, c'est quelque chose qui me passionne. Notamment, je me rappelle avoir eu des débats sur la scène de Léonard de Vinci, où on dit que l'apôtre Jean sera une femme, qu'il a des traits très féminins. Il y a toujours eu quand même, à travers la littérature, et même alors encore plus, ce qui s'est nourri de ça, c'est l'ésotérisme avec les Rosicruciens et tout ce qui tourne dans l'ésotérisme, le Graal même, il y a toute une version complètement fantasmagorée dans l'énigme sacrée où le Christ aurait quitté les rivages de là-bas pour arriver en Septimanie. Enfin, je pense que vous connaissez très bien ce qui est plus du niveau des légendes. Resituer un peu justement le Christ dans son rapport à la femme d'une façon simple, c'était aussi un des messages que vous vouliez passer. Enfin, peut-être que vous n'aimez pas le mot message dans ce que vous voulez dire.
Ah oui, je ne suis pas du tout dans l'ésotérisme. Alors, pas du tout. L'ésotérisme s'appuie souvent d'ailleurs sur la gnose et sur la spiritualité égyptienne ou grecque. Ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je dis reste toujours très fidèle à l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus n'est pas marié. Et je l'explique par son appartenance à la communauté presque monastique de Nazareth, qui est issue de la communauté des thérapeutes d'Alexandrie, mm-hmm. où c'était des hommes et des veuves qui vivaient ensemble, mais sans avoir de relations charnelles. Donc Jésus, pour moi, n'est pas marié, mm-hmm. alors que tous les romans à la mode veulent le marier absolument avec Marie-Madeleine, parce que il y a eu effectivement l'évangile de Marie qu'on a découvert à Nag Hammadi, qui est quand même un écrit du 4e ou 5e siècle, je ne sais plus, et donc qui n'est pas réellement fidèle à l'évangile.
D'ailleurs, donc, bien sûr, parce que en plus le peu de d'intrusion que j'ai fait dans ma curiosité vis-à-vis de la religion, j'y suis arrivée par les cathares. Et c'est vrai que c'est là où j'ai, je sais pas, je dois avoir une 30, 35 ans, je me suis passionnée pour le catharisme en arrivant dans la région. Et très vite, on tombe sur les ordres monastiques, sur plein de choses. Et on tombe évidemment sur la Bible, hein, qui est quand même le fondateur de tellement de choses. Et j'avais jamais su que les évangiles avaient été écrits 5, 6 siècles après la mort de Jésus-Christ. Donc, quand même, avec plein de choses à mettre en.
Non, les évangiles ont été écrits quand même dans le premier siècle, mais ils ont été publiés ensemble, oui. C'est-à-dire que le canon de la Bible, c'est du Nouveau Testament, c'est fait effectivement au 4e ou 5e siècle.
D'ailleurs, à ce propos, vous insistez, c'est quelque chose que je voulais aborder, et c'est vrai que le temps file et je voudrais quand même en parler. Pourquoi vous invitez, enfin le livre, hein, c'est vous, le livre, invite à se pencher plus particulièrement sur l'évangile de Luc.
Parce que l'évangile de Luc est beaucoup plus féministe que les autres. C'est lui qui met en scène effectivement beaucoup de femmes. Je pourrais dire que Jean le fait aussi, d'ailleurs, dans l'épisode de la Samaritaine en particulier, dans celui de la femme adultère aussi. Mais certains exégètes ont dit que ces passages-là auraient pu être réinsérés dans l'évangile de Luc. Donc oui. C'est à cause de bon. Et puis l'évangile de Luc me paraît aussi un peu fictionnel dans tout le récit de naissance. Il dit qu'il s'appuie sur des témoins oculaires qu'il a, mais en même temps Luc c'est un littéraire. On voit qu'il travaille son texte et il a des intuitions, comme moi j'ai eu aussi des intuitions, et il les réécrit de cette façon. Donc oui, Luc a été un de mes modèles, même si on me dit que Luc c'est un évangile catholique et que Matthieu c'est plutôt un évangile protestant, mais ça j'en ai cure, parce que je trouve que chaque évangile va apporter la pierre à... c'est la même chose. C'est Jésus vu de quatre témoins différents. Moi, j'apporte un témoin supplémentaire qui est une femme. Pourquoi pas?
Mais c'est très agréable parce que bon, là, on parle ensemble depuis un peu plus d'une demi-heure. Mais il y a ce regard aussi tendre, humain. Vous ne prenez pas au sérieux, Joël?
Je ne me prends pas au sérieux.
Vous avez un propos sérieux, mais dans la façon dont vous en parlez, je crois que vous y mettez beaucoup d'humour, beaucoup de sourire. Enfin, oui. Hélas, les auditeurs
ne
peuvent pas.
Ça se sent peut-être.
Mais j'ai une femme extrêmement souriante devant moi, extrêmement, je trouve.
Oui, mais peut-être je me prends pas au sérieux parce que je me suis beaucoup identifiée à Mariam d'abord, hein, parce que elle était comme moi médecin, puisqu'elle avait appris, elle avait tout appris de son père qui lui avait fait ses études de médecine à Alexandrie, et puis elle était aussi écrivaine, donc mais écrivaine cachée. Son père lui dit tu peux faire ce que tu veux, mais fais attention parce que dans ton milieu tu risques de bon. Et dans le milieu des écrivains, je me suis sentie pas illégitime, mais en tout cas j'ai jamais voulu vraiment me prendre au sérieux là-dessus. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, et en particulier des hommes qui prennent le haut du pavé. Je n'ai pas du tout envie de faire ça.
Et juste avant vous, était assise dans le fauteuil Françoise Mariotti, qui est psychologue et qui est une féministe aussi engagée. Voilà. On va marquer notre deuxième pause musicale et vous nous avez proposé Bach, Cantata Wachet auf, Ruft uns die. Alors là, déjà en espagnol, je ne suis pas terrible, mais en allemand, c'est encore pire. Vous pouvez peut-être nous le dire, non?
Oui,
voilà.
Oui. Là. Wartet auf, ruft uns die Stimme. C'est-à-dire, c'est la cantate du veilleur. Veille et entend la voix qui nous appelle. Voilà.
Et au dernier culte à Maguelone, il y avait la musicienne qui s'appelle Marion, je crois d'ailleurs, qui nous a joué quelque chose de Bach sur un piano, pourtant qui n'est pas topissime, mais c'était magnifique. Voilà. Donc là, on écoute et vraiment, quel plaisir d'écouter Bach. Et vous êtes toujours sur Radio FM+, dans Aéropage, et aujourd'hui en compagnie de Joël Randéger. Merci pour ce moment de paix, d'apaisement.
Hein. Ah, c'est tellement beau.
Vous avez fait du chant choral, Joël?
Un petit peu, avec Eric et Roland de Carrière, dans la chorale Goudimel. C'est même moi qui ai trouvé le nom de Goudimel. parce que je trouvais que la musique avait un goût de miel.
Hein, oui, c'est un joli, voilà. Voilà, jolie création, en tout cas, de mots. Joël, on se sépare dans 5 minutes. Le livre, il est édité chez Olivetan, donc disponible chez tous les bons libraires. Plusieurs chapitres, plusieurs chapitres sur lesquels on peut revenir. Chaque chapitre est intitulé hein, d'un titre qui...
D'un verset biblique.
Voilà, d'un verset biblique. D'ailleurs, que j'ai un peu fréquenté quand je lisais la parole du jour. Ça a été des moments très riches pour moi de lire la parole du jour. Après aussi, évidemment, des explications... Un rappel des intervenants, hein, de bibliographie bien sûr, des citations, et je cherchais la page, parce que pour quelqu'un qui n'est pas du tout, qui ne connaît rien comme moi, quand tout d'un coup vous parlez de Yeshua, je ne sais pas qui c'est moi. Je n'ai jamais entendu parler de Jésus avec ce nom-là.
C'est le nom hébreu.
Voilà.
Et Mariam, qui est une de ses très très proches, l'appelle par son nom hébreu.
Bien sûr, mais je suis partie dedans, vous savez, comme voilà, j'ai reçu un roman et je vais le lire. Et je vous ai appelé en disant, je découvre chaque page m'interroge, je vais me renseigner. Je travaille avec Internet, évidemment, ça, aujourd'hui on a la chance d'avoir ça. Et voilà, mais j'aurais tellement de questions à vous poser, j'ai l'impression d'avoir envie de partager avec vous un chapitre, une émission pour parler de chaque chapitre, parce que chaque chapitre est un questionnement pour moi. C'est là où je redis encore, je ne me sens pas tellement légitime, et vous me dites, mais si Nathalie, justement, ce qui est... enrichissant, c'est des échanges comme ça, c'est-à-dire des gens qui vous posent des questions naïves, pas naïves, mais bon, voilà, pleines de curiosité, pleines d'envie, parce que ça, c'est un débat que j'ai souvent, Joël, en me disant, je suis arrivée dans cette radio en n'étant pas religieuse, et il y a toute une part de spiritualité à travers les paroles du jour, à travers des rencontres comme celles qu'on a aujourd'hui, qui font que ça m'interpelle et que j'aimerais que vous m'en disiez plus. Voilà. Ça vous fait quoi quand je vous dis ça?
Moi, je réagis sur le mot « je ne suis pas religieuse ». J'espère ne pas être religieuse, pour moi. Je pense que Jésus, c'est toujours... a toujours réagi à la religiosité de son temps. Il avait horreur d'une religion contraignante, culpabilisante, qui avait son emprise vraiment sur tout le monde. Et c'est exactement ce que je ne voudrais pas faire. Et donc, je m'adresse vraiment à tous les gens qui sont en recherche, qui sentent ce besoin de spiritualité, ce besoin de transcendance, ce besoin d'émerveillement, mais qui ne le trouvent pas de réponse dans les catégories religieuses.
Quand vous avez des échanges écuméniques comme ça avec des gens, par exemple, sur RCF ou avec des gens catholiques, il y a aussi cette envie-là de dépoussiérer tout ça dans d'autres églises ?
Je crois que, à la fois dans les églises et à la fois à l'extérieur des églises, il y a une envie de redécouvrir la personne de Jésus, son enseignement, parce que on a l'impression que, oui, on est dans une civilisation soi-disant judéo-chrétienne, mais on n'a pas retenu réellement l'enseignement
du
Christ.
C'est même une catastrophe. Hein,
c'est même une catastrophe. Au nom de ça, on s'est battu, on s'est écharpé, etc. Alors que Jésus est le non-violence par excellence. Et tout ce qu'il enseigne, c'est justement de faire attention aux petits, aux serviteurs, aux pauvres, aux enfants, aux femmes, aux opprimés. Est-ce qu'on le fait encore? C'est ça que je pense qui est très important à transmettre, beaucoup plus que l'institution, la hiérarchie, les façons de... oui. Peut-être elles sont indispensables pour une société humaine. Mais vraiment, je les appelle à être beaucoup plus fidèles au message du Christ.
Moi, je trouve que c'est une fin magnifique. Hein. On ne va pas en rajouter d'autres. Merci beaucoup, en tout cas, Joël Randéger, pour ces moments que j'ai envie de recommencer de temps en temps, pour tout vous dire. Et donc, je rappelle que le livre est sorti aux éditions Olivetan en 2022. Sur autre chose, en ce moment, vous écrivez ?
J'ai des idées, mais c'est pas encore très... J'espère avoir le temps. De le faire, parce que ce livre m'a demandé quand même beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup de travail, et je ne sais pas si ce temps me sera donné, si la vie sera suffisamment longue, mais pourquoi pas, j'y travaille.
Profitons en tout cas déjà du temps présent pour lire et découvrir et partager ce jardin des oliviers, donc aux éditions Olivetan. Merci beaucoup, merci Joël d'être venu dans Aéropage, j'espère vous retrouver bientôt.
Merci de m'avoir invité.
Merci, au revoir.
Au revoir.
L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM+.